Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Arts pour poursuivre avec moi notre cheminement parmi les artistes femmes créatrices au cours du temps. Nous sommes toujours à la première moitié du XXe siècle puisque l'émission précédente, nous avions abordé les destins de femmes peintres surréalistes et une musicienne nommée Elsa Barène, outre les coups de lune de ses créations, s'est présentée comme une artiste engagée socialement, politiquement. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre chemin et encore avec une surréaliste, une peintre tchèque surnommée Toyen ou Toyenne, elle aussi artiste engagée. Alors son vrai nom est Marik Serminova, elle est née en 1902 et elle est une figure majeure du surréalisme en Tchécoslovaquie, doublée d'une rebelle et d'une anticonformiste. Alors elle recevra un enseignement artistique à l'École des Arts Appliqués de Prague. Par la suite, elle collaborera avec l'artiste Jindřich Styrský. Ils rejoindront tous deux le groupe d'avant-garde Devetsil à Prague, qui serait aussi un groupe anarchiste. Alors, dans son art, d'abord attirée par le cubisme, elle explorera d'autres modes d'expression, et notamment justement en relation avec le surréalisme. Et elle expérimentera aussi d'autres techniques, hein, celle du collage notamment, qui avait le vent en poupe cette première partie du XXe siècle. Et c'est vrai qu'on sent chez elle le désir de s'essayer sur des nouvelles formes expressives, à la fois plastiques et créatives, si bien qu'elle apportera sa singularité sur des œuvres qui se différencient et évoluent au cours du temps. Par exemple, de l'abstraction géométrique en noir et blanc, elle utilisera ensuite la couleur en proposant des images étranges, angoissantes parfois, inquiétantes, dont les titres sont déjà évocateurs, comme Horreur de 1937 ou Cache-toi guerre, réalisé en 1944. Alors, ce qu'elle fait est aussi en forte résonance avec le contexte politique et social, vous l'avez compris. Mais elle ne se contentera pas que de cela, car en s'ouvrant à d'autres sujets, elle enrichira son expressivité. Et certaines de ses œuvres seront peut-être poétiques, d'autres seront érotiques, comme les illustrations qu'elle réalisera pour le poète Jindřich Eisler. Avec Styrský, quand ils s'installeront à Paris, ils inventeront un nouveau style, l'artificialisme, que Styrský définit ainsi, et je vous le lis, « Le tableau artificialiste détourne le spectateur du cercle fermé de son imagination habituelle, détruisant le mécanisme et le système des images connues. » Mais encore une fois, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à vous pencher dessus pour voir plus précisément de quoi il s'agit. Alors évoquons également Dorothea Tanning, née en 1910 aux États-Unis, qui est une peintre, sculptrice, écrivaine et éditrice d'origine suédoise, et fera également partie des surréalistes. Elle amorcera sa carrière en suivant des cours de dessin à l'Institut d'art de Chicago pour s'installer à New York comme dessinatrice publicitaire. Alors elle se rattachera ensuite au groupe surréaliste de New York. Et figurez-vous que nous retrouvons le peintre surréaliste allemand Max Ernst, qui depuis un moment n'est plus avec Leonora Carrington, puisqu'entre-temps il a convolé avec la mécène galeriste américaine Peggy Guggenheim, dont il divorcera et il épousera par la suite en 1946 Dorothea Tanning, qui prendra la place de quatrième épouse. Alors il s'est arrêté là, puisqu'ils vivront ensemble au moins pendant 34 années, où ils partageront une belle complicité. Alors d'abord installés aux États-Unis, ils partiront s'installer en France, en province plus précisément. Ceci dit, cet artiste doté d'une belle créativité, malgré la richesse de sa production et l'affirmation de sa personnalité que sa peinture aboutie révèle, souffrira quand même de vivre dans l'ombre de Marx Ernst, une réalité qui sera surtout palpable pour elle après le décès de Max Ernst, car à ce qu'il paraît, elle aurait été un peu ignorée en revenant aux États-Unis. Alors je vais quand même vous lire ce qu'un collectionneur ami nommé Daniel Filippacci aurait dit de sa personnalité. Alors je vous le lis. C'était une femme très jolie, ce qui a une certaine importance, en plus intelligente, ce qui ne gâche rien. Et bien que l'on dise les femmes jolies et intelligentes plutôt difficiles à vivre dans les rapports humains habituels, une femme spirituelle et assez drôle. Alors ce même collectionneur, devenu un ami du couple, donne également son avis sur ses créations picturales qu'il trouve intéressantes et lui trouve des qualités en tant que poète. Et il relève son goût pour le jeu d'échecs, puisque même après le décès de Max Ernst, il continuera de l'avoir, notamment pour jouer aux échecs. Alors en ce qui concerne ses peintures, celle-ci renferme la particularité de révéler les fantasmes propres aux femmes, hors projection des désirs de l'homme, ce qui est plutôt contraire à ce que proposait le surréalisme en matière d'images féminines. Alors souvenez-vous de Simone de Beauvoir, que j'avais évoqué précédemment, et qui donnait également son avis sur le sujet. Alors avec Dorothea Tanning, il s'agissait aussi d'exprimer un point de vue féminin sur le désir et la sexualité. Si bien qu'en exprimant sa réalité personnelle, sont palpables également ses peurs et ses angoisses. Alors une de ses œuvres les plus connues est un autoportrait et s'intitule « Birthday », qui signifie « anniversaire », et qui la présente poitrine dénudée, vêtue de tissus mêlés à des plantes vertes. Elle semble se situer dans un appartement ou une maison, ce qui apparaît de prime abord. Ce sont des portes ouvertes sur d'autres portes ouvertes. Devant elle, un animal mi-oiseau, mi-chat. Il est possible, à partir de ce portrait, de faire une analyse, je dirais psychanalytique, qui est même proposée sur Internet en décryptant les symboles, les formes, les couleurs, etc. Tout ceci est fort intéressant. Mais moi, je conseille, avant de lire quoi que ce soit sur un tableau ou une œuvre, c'est de prendre contact soi-même avec la peinture, la contempler, la regarder et laisser venir en soi les émotions, les réflexions, enfin bref, tout ce qui fait que vous allez interagir avec l'œuvre. Alors, Dorothea Tanning publiera son autobiographie en 1986 et décédera en 2012 à l'âge de 102 ans. Alors, bien d'autres femmes connues, inconnues, se sont présentées à moi. Il m'a suffi de tirer sur un fil et c'est toute une pelote qui vous arrive, vous tombe dessus, ce qui fait que maintenant, je m'en mêle et essaye de me démêler avec toutes ces dames pour tisser leur parcours de vie afin que ma présentation soit suffisamment significative pour vous intéresser et développer votre connaissance de l'art au féminin. Alors, comme pour la sculptrice brésilienne Maria Martins, née en 1894, qui était également poétesse et créatrice de bijoux, et qui façonnera des figures, notamment féminines, inspirées de ses voyages et des légendes de son pays, le Brésil. Alors, il s'agit d'un mixte figuratif et abstrait avec des figures mythologiques auxquels se mêlent des éléments d'aspect végétal avec une expressivité plutôt sauvage. Alors elle finira également par se rattacher au surréalisme. Elle étudiera différentes techniques en sculpture, le bois, la céramique. De la terre, elle passera au bronze. Elle recevra la reconnaissance et des surréalistes dont le chef de file est André Breton et du monde artistique new-yorkais. Et elle a été redécouverte dans son propre pays dans les années 70. Alors un ouvrage intitulé « Les statues magiques de Maria » lui est dédié. Il est coécrit par le surréaliste écrivain critique d'art André Breton, cité plus haut, le critique d'art Michel Tapier et Maria Martins elle-même. Or Marcel Duchamp en était éperdument amoureux. Il lui a écrit, hein, l'a chanté peut-être, hein, allons savoir, « Tant sa flamme semblait vive, et nous en avons comme témoignage une correspondance. » En tout cas, cette femme l'a suffisamment ensorcelé pour apparaître dans ses créations, notamment son œuvre posthume intitulée « Étant donné », qui présente un corps de femme dénudé vu par un trou de porte dans une position... moi j'en dirai pas plus. Enfin, c'est en tout cas ici une bonne occasion de présenter Duchamp, cette fois-ci éloigné de sa fontaine urinoire, de ses élucubrations froidement intellectuelles, pour l'envisager sous un jour nouveau, en proie à des échauffements amoureux. Quant à Maria Martins, même en étant l'épouse d'un diplomate, elle apparaît comme une femme libre, non conventionnelle, qui assume les bouillonnements de sa nature. Alors restons au Brésil en musique, hein, s'il vous plaît, pour notre pause musicale en compagnie d'une compositrice brésilienne. Bon, elle ne suit pas la chronologie de mon émission, qui correspond à la première moitié du XXe siècle, puisqu'elle est née en 1847, mais il serait dommage de passer à côté de cette personnalité dont le parcours de vie fut plus ou moins difficile et décousu, et qui a composé quand même pas moins de 2000 œuvres, et qui fut pianiste et la première femme d'orchestre au Brésil. Et je nomme ici Chiquina Gonzaga. Alors, qui est-elle? Eh bien, déjà, elle est issue d'une mixité à la fois raciale et sociale, puisque sa mère est métisse, qu'elle est pauvre et considérée comme bien des femmes à cette époque, comme une esclave, alors que le père de Chiquina est, lui, militaire, issu d'une famille aisée. Si bien que la naissance de l'enfant, fille de surcroît, on peut supposer qu'elle ne fut certainement pas motif à allégresse générale et à maintenir la paix dans les familles, si je puis m'exprimer ainsi. Et pourtant, malgré les pressions familiales, le père reconnaîtra sa fille et s'arrangera pour lui offrir une bonne éducation à la militaire, c'est-à-dire rigoureuse, avec un enseignement de qualité, où elle pourra même apprendre le piano, l'objectif futur étant de la marier à un bon parti. Et c'est là en effet qu'une vocation se révèle lorsqu'elle s'initie à la musique et touche au piano, si bien qu'elle composera à 11 ans une première œuvre musicale pour Noël intitulée « Canção dos Pastores ». Alors à 16 ans, évidemment, elle est contrainte de se marier avec un militaire choisi par la famille, papa sans doute. Son mari est plutôt jeune puisqu'il a 24 ans. Bon, on aurait pu la marier un vieux barbon, hein, ce qui se faisait naturellement dans bien des familles dans l'international. Hein, du moment que l'homme montrait patte blanche avec un bon niveau social, du pouvoir, de la richesse, etc. Bah aussi, peu importe, je vais dire ça, qu'il ait un pied dans la tombe. Hein. Au contraire, un jeune tendron innocent, donc malléable, ne pouvait que ragaillardir quelques ardeurs en sommeil pour produire, qui sait, une progéniture apte à assurer la succession. C'est ce qui s'appelle un mariage de raison dans les familles où les possessions matérielles et où la domination dans le social sont le plus important. C'est-à-dire que c'est le moyen, supposé élégant en tout cas, qui relève d'un certain pragmatisme où il est avantageux de céder à un être neuf, vierge de toute souillure, à un autre, contre rétribution, en l'occurrence ici la fille. Et c'est en général dans ce sens que les choses se passent. Bon, c'est présenté peut-être un peu gaillardement, mais je n'invente rien. Alors le mari est jeune, d'accord, mais c'est un homme de l'époque, un militaire de surcroît, qui compte bien se faire obéir, exercer son pouvoir de commandement comme il se doit, surtout si c'est sur une femme, d'autant plus s'il s'agit là de la sienne, si bien qu'il a dû trouver naturel de la rudoyer, en tout cas c'est ce que j'ai lu, et de lui interdire de surcroît de jouer de la musique. Alors qu'à cela ne tienne, la dame se rebiffe, demande un divorce légal et l'obtient. et elle supportera en même temps le rejet de son propre père qui la déclara morte. Et de ses 3 enfants, elle ne pourra partir qu'avec l'aîné, car les 2 autres seront retenus par la famille. Alors elle s'installera ensuite avec un autre homme, de qui elle aura une fille, pour ensuite encore se séparer, mais cette fois ce sera à cause des tromperies conjugales répétées de la part du monsieur, et encore une fois, l'enfant sera retenu par son père, qui refusera de laisser la garde à Chiquina Gonzaga. Alors elle aborde la 30aine et elle se consacrera désormais qu'à la musique pendant plus d'une 20aine d'années, composant et se produisant comme pianiste et donnant des leçons pour vivre. Et elle finira par devenir célèbre en tant que compositrice de tango, de chansons, de valses, etc. Et dans son souci d'adapter les sonorités du piano au goût populaire du Brésil, elle deviendra également la première compositrice populaire de son pays. Et entre autres compositions, ce seront des polkas, des danses brésiliennes, intitulées Machich et musique de style brésilien, des mazurkas, des sérénades, des opérettes, dont l'une intitulée Opérette Forobodo, qui atteindra un très grand succès. Alors apparemment, comme rien n'est simple chez cette dame qui collectionnera toute sa vie les scandales en étant simplement elle-même, c'est-à-dire une créatrice, un être libre et non pas une nuisible comme certains, tolérée parce que, outre la lâcheté pour les contrées, ils correspondent à un énorme en rigueur, c'est mon avis. Nous apprendrons son secret, celui révélé après sa mort au travers de photos, de correspondances. Eh bien, c'est qu'elle vécut un grand amour pendant 35-36 ans, et ce jusqu'à sa mort, avec un homme, un musicien, de 36 ans son cadet, puisqu'elle l'a rencontré alors qu'elle avait 52 ans et lui 16 ans, et qu'à l'époque, il s'initiait à la musique. Alors, ce fut un coup de foudre, et apparemment, cette liaison perdura dans le temps entre 2 êtres consentants, malgré les différences d'âge, et même s'ils furent obligés de se cacher, et qu'elle le fit passer pour son fils adoptif afin d'éviter les scandales destructeurs. Alors elle aura également une amie proche, un personnage atypique nommé Ner de Tefé, née von Honholz, fille d'un aristocrate prussien, qui sera connu aussi, et surtout sous le nom de Ner Hermès da Fonseca, du nom du mari, puisqu'elle épousera par la suite le président du Brésil, Hermès Rodrigues da Fonseca. Alors elle, c'est une caricaturiste qui dut bien s'amuser en caricaturant la bonne société, mais elle était également peintre, pianiste et chanteuse. Elle est née bien plus tard que Chiquina Gonzaga, c'est-à-dire en 1886, car elles ont 38 ans de différence, et elles ont dû certainement bien s'entendre, notamment rapprochées par l'artistique, pour causer quelques remous dans les différentes strates de la société brésilienne de l'époque, ce que je trouve plutôt cocasse et aussi appréciable, vu les personnalités et la conjoncture. D'ailleurs, elle a continué de choquer, déjà en introduisant au palais des musiques et des instruments inhabituels, jugés populaires, si bien qu'elle fut accusée de violer le protocole. Et encore une fois, voilà une qui n'était pas dans les clous. Mais revenons à Chiquina Gonzaga, que j'ai le plaisir de vous faire écouter l'une de ses créations. Et je vous propose une petite musique assez allègre intitulée En Guarda. Thank you. Alors figurez-vous qu'en m'intéressant à ces artistes et au Brésil, je me suis retrouvée face encore à des compatriotes et qui ont également contribué à apporter de l'eau au moulin de la création contemporaine. Alors elles sont un peu plus âgées que Mariam Martins, de la génération de Nerf de Tefé, comme par exemple Tarsila do Amaral, née en 1886, peintre brésilienne moderniste. Le modernisme qualifiant, je le rappelle, les courants novateurs touchant tous les domaines artistiques en début du XXe siècle. C'est une peintre qui suivra les mouvements sociopolitiques avec la contestation qui va avec, propre aux artistes de ce courant. Elle est issue d'une famille aisée qui d'abord a vécu à Sao Paulo au Brésil, puis a déménagé en Espagne où elle poursuivit ses études et a commencé à peindre. Et elle reviendra au Brésil pour se marier. Et c'est après son divorce autour des années 20 qu'elle se rendra à Paris pour étudier l'art à l'école de peinture et sculpture, la réputée Académie Julian. Alors à son retour, elle rencontrera un écrivain moderniste nommé Oswald de Andrade, avec qui elle aura une liaison, mais aussi une collaboration artistique, puisqu'avec lui et d'autres artistes, comme la peintre Anita Malfatti, les littérateurs, écrivains, poètes Mario de Andrade et Paulo Menotti d'Espicha, ils constitueront le groupe des cinq, dont globalement la mission sera d'apporter au Brésil les influences des avant-gardes européennes. Et elle sera en quelque sorte l'initiatrice, la représentante du mouvement anthropophagique dont le concept rejoint la métaphore car il correspond au fait d'avaler, de régurgiter sous une autre forme ce qui a été mangé. Alors c'est comparable au cannibalisme et c'est ce que ce groupe s'employait à faire en assimilant la culture, les idées novatrices venues de l'étranger, pour les intégrer et les restituer sous une forme nouvelle dans leur pays d'origine, mais ceci tout en gardant leur identité. Bon, j'espère que mon explication est compréhensible. Alors, je vous conseille d'essayer de trouver ces œuvres sur Internet, et entre autres, Abba Poru, l'une de ses œuvres les plus célèbres de 1928, ou la Kuka, ou Kuka, créée en 1924 du nom d'un animal inventé brésilien, ou Anthropophagie de 1929, qui est un mixte de modernité et de tradition brésilienne. Et des portraits aussi, ou des peintures sociales, comme Second Class de 1933, avec des personnages populaires d'apparence triste et pauvre. Et elle a réalisé également son autoportrait intitulé Manteau rouge. Bon, les années passant, Tarsila do Amaral obtiendra célébrité et reconnaissance dans son pays. Elle participera à la première biennale de Sao Paulo au Brésil en 1951 et à la biennale de Venise en 1964 pour terminer ses jours en 1973 à l'âge de 87 ans. Alors j'évoquais le nom d'Anita Catarina Malfatti ci-dessus, qui faisait elle aussi partie du groupe des cinq. Elle est née en 1889 et il est dit que c'est elle qui aurait introduit les formes européennes et américaines du modernisme au Brésil. Et dans ce sens, elle aurait en quelque sorte, dans son pays, davantage bousculé les codes artistiques, si bien qu'elle aurait fait l'objet de critiques et d'incompréhensions, car elle encaissera les reproches de ne pas donner une image dans laquelle le Brésil aurait pu se reconnaître. Alors d'un style expressionniste, elle serait aussi comme Tarsila en accord avec la mentalité de l'époque et peut-être plus orientée vers le progrès en ce début de XXe siècle. Alors j'ai regardé sa production sur Internet, bon j'avais pas d'autre moyen de la voir. Ils sont présentés surtout des portraits expressifs, de par la couleur et parfois aussi la force du trait. Elle peindra des scènes populaires également, fera plus ou moins évoluer son style en s'inspirant de différents courants, car elle voyagera, passera aussi par Paris, en participant aux expositions, etc. Alors il faut dire aussi qu'Anita Catarina Malfatti, aurait eu un début de vie problématique dans le sens où elle souffrait d'une petite malformation du bras droit à laquelle il a fallu remédier médicalement. Et bien que droitière, elle a dû s'aguerrir à se servir de sa main gauche. Mais nous pouvons constater que ce handicap de départ ne l'a pas empêchée de peindre. Ensuite, elle avait fait de solides études, poussée et dirigée par une mère cultivée, parlant plusieurs langues, si bien qu'elle obtint son diplôme d'enseignante à 19 ans. Alors, il faut souligner que sa mère était peintre également. Quoi qu'il en soit, Anita, en découvrant la peinture, persévérera dans la voie artistique en se formant à différentes écoles, notamment à l'étranger. Mais son parcours fut parfois ardu, surtout à son retour au Brésil, car elle fut la cible, peut-être même le bouc émissaire, d'attaques, de critiques, ce qui la déstabilisera fortement, jusqu'à même décrédibiliser son travail, et il est dit qu'elle ne s'en remettra pas. Enfin, ceci dit, elle est reconnue maintenant comme une figure majeure de la peinture brésilienne. Elle aurait aussi ouvert la voie à d'autres artistes brésiliens par la suite, mais en étant sacrifiée en chemin. Eh bien voilà, il est temps de nous quitter. J'espère que vous avez fait un bon voyage au Brésil, où la vie ne semblait pas si facile. Enfin, c'est ce que laissent supposer ces destins de femmes artistes fin 19e, pour notre musicienne Chiquina Gonzaga et pour nos peintres avant-gardistes en ce début de 20e siècle. J'espère que vous serez prêts à repartir avec moi sous d'autres latitudes, à la découverte toujours de nos créatrices artistes. Je vous y emmènerai encore avec plaisir. Merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.